RMC Entre les poteaux,
Pierre Thévenet.
Bienvenue dans cet épisode hors-série d'Entre les poteaux consacré au rugby féminin, à l'équipe de France féminine de rugby. Les hommes du 15 de France ont remporté le tournoi destination. Les U20 ont remporté le grand chelem dans ce tournoi. Place maintenant aux joueuses du 15 de France féminin. Elles débutent leur tournoi destination samedi 11 avril à Grenoble face à l'Italie. Tournoi qui se terminera, on l'espère, par une nouvelle finale face à l'Angleterre au stade Atlantique de Bordeaux le 17 mai prochain. Et quelques mois après la Coupe du Monde, on a changé de sélectionneur. De nouvelles joueuses, elles sont arrivées pour ce nouveau cycle pour tenter de remporter ce tournoi qui leur échappe depuis 2018. Pour parler de tout ça, on est bien sûr avec notre consultante maison, Lénaïk Carson. Salut Lénaïk.
Salut Pierre.
Et avec la demi-mêlée du 15 de France, c'est 71 sélections. C'est Pauline Bourdon-Sansuy qui est avec nous. Salut Pauline.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, au soleil à Marcoussis.
Ça fait quelques jours que vous êtes là à Marcoussis. Il y a eu plusieurs stages à Blagnac, ensuite à Marcoussis à la fin du mois de mars. Et là, ça fait quasiment deux semaines que vous êtes là aussi. Vous aviez besoin de ce moment ensemble pour... se remettre au boulot.
Oui, complètement. Surtout que c'est un nouveau cycle, comme tu l'as dit. Voilà, nouveau projet, nouveau entraîneur. Donc voilà, il fallait qu'on se rencontre aussi, nouvelle fille. Donc, on est content d'avoir retrouvé notre chez nous à Marcoussis et on essaie de se préparer dans les meilleures conditions pour pouvoir affronter l'Italie.
Et vous sentez que ça progresse sur ce mois de ensemble?
Oui, complètement. Bah, il a fallu assimiler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent du nouveau staff, On garde quand même nos structures un peu de base, mais c'est vrai qu'on met beaucoup plus d'animation dans nos cellules, donc forcément de nouvelles courses pour les filles, enfin plein d'autres choses que vous allez découvrir prochainement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations et il faut les assimiler pour petit à petit monter et faire des bons entraînements avant d'affronter l'Italie et de se mettre en confiance surtout.
Avant de parler de ce nouveau sélectionneur qui est arrivé, François Ratier, on vous avait quitté il y a quelques mois après cette demi-finale et cette petite finale perdue à la Coupe du Monde. Il y avait beaucoup de déceptions à ce moment-là. Évidemment, comment est-ce que toi et les filles, vous avez digéré tout ça?
Ouais, forcément, on est rentré frustrés de cette Coupe du Monde. On est rentré dans nos clubs où vraiment on a eu du mal à rebondir parce que voilà, c'était un échec pour nous. Mais voilà, l'annonce de François qui est arrivé nous a mis un nouvel air aussi et nous dit que voilà, il faut oublier ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et voilà, passer sur un nouveau cycle avec de nouveaux entraîneurs et voilà, il fallait digérer. Maintenant, c'est digéré, c'est derrière nous et on démarre vraiment un nouveau cycle avec François, Gérald et Florian.
Lénaïk, pour toi, c'était important d'apporter du nouveau aussi dans cette équipe de France. Ça faisait un moment que les sélectionneurs précédents étaient en place. Il y a eu cette Coupe du Monde qui était l'objectif de changer, d'apporter un vent frais. C'est important pour toi?
Oui, je pense à Pauline hein, qui est là depuis déjà un petit moment aussi. C'est important aussi d'avoir des discours différents, des compétences différentes. Je pense que c'est ça aussi que vous êtes venu chercher avec le nouveau staff. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous appréciez et ce qu'on voit sur le terrain. Aujourd'hui, c'est des cellules beaucoup plus structurées. On sait où on va, on ne perd pas de temps. Sur les entraînements de clarté, on a vu, voilà, chacun était très focus, et notamment l'apport de ces nouvelles joueuses, une volonté forte de ce nouveau staff, d'amener du sang nouveau. Mm-hmm. Comment justement, toi, tu vois ce rôle aussi d'accueillir ces nouvelles joueuses, de les intégrer et de faire en sorte qu'elles assimilent très vite le projet de jeu?
Ouais, franchement, elles arrivent, elles sont quand même très prêtes. Il faut juste les guider un peu, leur dire, elles font beaucoup. Elles sont très scolaires, elles vont aux vidéos, elles s'analysent. Enfin, franchement, on a des générations qui arrivent qui sont prêtes. Alors, forcément, elles seront peut-être mûres avec l'expérience un peu plus tard. Mais quand elles arrivent, en tout cas, elles sont prêtes, elles ont envie de travailler. Et franchement, nous, ça nous emmène beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'énergie. Et on a envie aussi de les accompagner, de les emmener avec nous. Et voilà, on repart sur un cycle de 4 ans. Donc 4 ans, c'est long. Et il faut vraiment être dans l'accompagnement pour être prêt. Bah, là, forcément, vite, parce que on a un objectif, c'est le tournoi. Mais le plus gros objectif, c'est dans 4 ans pour la Coupe du Monde, quoi.
Tu sens que les filles sont prêtes plus tôt qu'avant, quand à l'époque où toi t'as démarré, tu sens qu'elles arrivent en étant déjà finies, entre guillemets, prêtes pour le très haut niveau?
Oui, complètement. Techniquement déjà, ça bosse fort dans les académies. Il y a plein de choses qui se mettent les moins de 18, les moins de 21. Nous, je crois qu'on n'avait que les moins de 20 quand on a commencé. Donc forcément, en fait, elles sont dans le cursus très tôt. Et en fait, elles sont accompagnées hyper jeunes et en fait, elles arrivent techniquement, passes, mains, pieds. Enfin, franchement, c'est propre. Alors, forcément, il faut jouer des matchs et il faut prendre de l'expérience. Mais en tout cas, techniquement, elles ont le bagage pour vraiment faire une belle carrière, quoi.
Et est-ce que justement, dans les valeurs que vous les véhiculez aussi dans l'équipe, est-ce que tu sens qu'elles, ça y est, elles mettent le maillot bleu, il se passe quelque chose? C'est quoi vos valeurs aussi dans l'équipe aujourd'hui en 2026? Qu'est-ce que vous avez envie de véhiculer comme état d'esprit sur le terrain?
Bah, forcément, quand elles n'ont pas encore porté le maillot, donc c'est sûr que c'est compliqué pour elles, mais nous, on leur dit qu'en fait, on n'est que de passage en équipe de France, donc il faut kiffer. Et en fait, quand vraiment on enfile le maillot, bah, il faut montrer qu'on est des guerrières, qu'il faut s'accrocher, qu'on est dans le caractère, que défensivement, il faut s'accrocher, il faut tout le temps s'envoyer, en fait. Et nous, c'est ce qu'on a envie, nous, leaders, leur transmettre et leur dire de kiffer le moment, de profiter. Peut-être que c'est une fois qu'elles le porteront, ou peut-être elles le porteront jamais, elles font juste des stages. Donc vraiment, s'envoyer, kiffer, prendre de l'énergie de tout le monde, prendre de... Enfin, nous écouter aussi pour parce qu'on leur donne des conseils qui sont hyper importants pour leur carrière qui vont arriver. Mais voilà, on a surtout envie de retrouver un peu la niaque qu'on avait. Je me rappelle les années, même la Coupe du Monde d'avant. Rien que défensivement, en fait, on était des chiennes, on s'envoyait comme des animaux. Et moi, en fait, ça m'a manqué un peu sur les 2-3 ans qui viennent de passer. Donc, j'ai vraiment envie que l'équipe de France retrouve cet ADN et cette énergie-là, quoi.
L'ADN des affamés.
Ouais, exactement. Il faut peut-être retrouver un autre nom, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai envie qu'on retrouve vraiment cette énergie et dire, OK, l'équipe de France, ça ne va pas être facile de les franchir, quoi.
Tu disais que vous êtes que de passage en équipe de France. Toi, ton passage, il commence à durer un petit peu, 71 sélections. Il y a pas mal de filles qui ont arrêté après la Coupe du Monde. Marine Ménager, Agathe Gérin, Manon Bigot. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de continuer? C'est d'encadrer ces nouvelles? C'est de retrouver du plaisir, comme tu dis, et de la niaque sur le terrain? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer?
Oui. Bah après, moi, j'ai toujours eu ce truc dans ma tête en me disant, le temps que je prends encore du plaisir sur le terrain, je continuerai. Voilà, j'ai que 30 ans, j'ai envie de continuer. Je ne sais pas si je ferai 4 ans. Mais en tout cas, le temps que je mets mes crampons, j'arrive sur le terrain et qu'en fait, je kiffe avec le moment où je suis... Les filles, je kiffe m'amuser sur... Enfin, faire du rugby, c'est ce que j'aime. Donc, le temps que j'ai ça, je continue. En plus, ce qui m'a donné envie, c'est François. Je m'entends quand même assez bien avec François et j'adore sa façon d'entraîner. Donc, j'avais aussi de voir comment ça allait se passer. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Et voilà, tant que je prends du plaisir, je continuerai jusqu'au bout.
Et justement, qu'est-ce qu'amène François à l'équipe? On sait qu'il a connu le très haut niveau, le haut niveau féminin.
Il a entraîné l'équipe nationale du Canada et il est triple champion de France en titre avec les Lions du Stade Bordelais. Donc tu l'as beaucoup affronté.
Vice-champion du monde en 2014 avec l'équipe du Canada à la Coupe du Monde qui avait lieu en France. C'est quelqu'un qui connaît bien ce public féminin. Justement, qu'est-ce qu'il apporte de plus et pourquoi aujourd'hui c'est la bonne personne à la tête du 15 de France?
Déjà il connaît le milieu, voilà, il a eu de l'expérience à l'étranger aussi et je pense que c'est une autre façon aussi de voir les choses que nous en France. Donc voilà, il y a plein de choses que pour l'instant il emmène, des réunions en plus, des vidéos en plus, il est très carré sur vraiment analyser les adversaires. Donc pour l'instant, franchement, ça roule bien. Et puis, il est chill, on est chill. Enfin, vraiment, c'est autre chose. Et j'avais besoin aussi de le découvrir et de voir comment ça allait se passer. Et pour l'instant, vraiment, ça se passe très, très bien.
Lui a eu beaucoup d'influence, justement, un peu anglo-saxonne au Canada. Tu dirais que c'est une approche un peu plus anglaise dans la... On l'a vu, on regardait l'entraînement avec les Neig. C'est pas lui qui anime les séances. Lui, il manage, il observe de loin, il vient donner son avis, il pilote. Un peu comme fait Fabien Galthié, d'ailleurs, avec les garçons aussi. Ça change aussi, cette approche.
Oui, complètement. Ça change comme approche. Et en fait, tout est vraiment carré, tout est analysé. Nos cellules, elles font... Enfin, vraiment... C'est vraiment une autre approche, enfin, c'est pas du tout pareil. Alors, et pourtant, ça change pas que dans nos cellules, on est quand même libre, on peut jouer au rugby, on peut faire des passes après contact, enfin, voilà, mais c'est vrai que tout est organisé et en tout cas, on est libre sur le terrain, mais c'est vrai que c'est une autre approche.
Les Neig, ça te rappelle un peu ce que tu avais peut-être connu en Angleterre, toi, à la fin de ta carrière, ce changement d'approche entre ce que tu avais en France en élite et ce que tu es parti.
Ouais, c'est la place qui est donnée au détail. Et là, j'ai découvert notamment cette espèce de grand écran géant bord de terrain qui annonce les scénarios. Voilà, on est telle partie du terrain, il reste 3 minutes, comment on joue. Et ça, c'est vraiment des mises en situation où mentalement, il faut être connecté avec les autres sur le terrain et très vite prendre une décision. Et une fois qu'on a pris la décision, on y va et tout ensemble et on assume. Et je pense qu'à des moments, peut-être que ce genre de scénario pouvait manquer. Et des fois, on voyait que voilà, ça manquait de lucidité sur des fins de match ou même sur des choix qui étaient faits sur le terrain.
Ouais,
donc cette place au détail, elle est hyper importante. Et effectivement, on le retrouve énormément dans les pays anglo-saxons où en France, on aime le French flair, on a un cadre, mais on a beaucoup le droit d'en sortir un petit peu de ce cadre. En Angleterre, c'est vrai que c'est très carré. Je pense que justement, François aussi, il capte l'identité de la culture française. Et il faut quand même laisser cette liberté, notamment avec le jeu après franchissement, on joue après contact, on joue debout. Je pense que ça, c'est aussi la vista qu'on a sur le terrain qui va aussi amener à être imprévisible et du coup difficilement jouable.
Vous me faites peur avec votre cadre, tu prends quand même du plaisir sur le terrain.
Complètement, oui, oui. En fait, il faut trouver juste milieu entre avoir un cadre vraiment bien défini, parce que les filles, on a besoin de ça aussi, d'avoir des choses qui soient claires, qui soient carrées, mais aussi avoir ce, comme le disait Lénaïque, avoir vraiment cet instinct qu'on a naturellement, en fait, parce qu'on est des bonnes joueuses de rugby. Et en fait, ce truc, je pense qu'il n'y a que les Français qui le maîtrisent, donc il faut vraiment trouver le juste, l'équilibre entre les deux.
Et plus le cadre est précis, plus j'imagine que derrière, tu as la possibilité aussi de t'exprimer sur des séquences plus précises. Est-ce que tu penses que c'est ce cadre qui vous manque depuis 6 ans pour, on en parle tout le temps en Angleterre tous les ans, mais parce que c'est un peu le Six Nations veut ça, hein, organise le calendrier comme ça, où la France et l'Angleterre affrontent d'abord les 4 autres adversaires, puis se retrouvent pour une finale, ce sera à Bordeaux au Stade Atlantique cette année. Tu penses que c'est ces petits détails-là qui peuvent faire la différence pour rattraper les Anglaises ?
Forcément, après il y a plein d'autres choses qu'il faut travailler, il faut travailler dans nos clubs, il faut travailler, enfin voilà, il y a plein d'autres choses, mais on en parle assez souvent. Mais c'est vrai que... En fait, on ne l'a jamais testé, donc go, essayons et on verra ce qui se passera, quoi.
Peut-être que dans une année post-Coupe du Monde, les Anglaises vont avoir la tête ailleurs, c'est ce qu'on se dit ?
Ouais, ça peut. Il y a des changements d'effectifs partout, changements de staff dans toutes les nations. Donc voilà. Et puis nous aussi, le renouveau permet aussi peut-être qu'il peut se passer quelque chose cette année, quoi.
Qu'est-ce qui fait qu'elles sont si fortes, ces Anglaises, Lénaïque ?
Je pense que c'est beaucoup lié à leur championnat. Elles ont tous les week-ends des matchs de très haut niveau. Toutes les meilleures joueuses du monde, surtout anglo-saxonnes, je pense aux Écossaises, aux Irlandaises, mais même de l'hémisphère sud, les Australiennes, les Néo-Zélandaises, des Américaines aussi qui viennent jouer dans la première chip anglaise. Donc c'est un championnat qui est très attractif. Il y a effectivement un petit peu plus d'argent qu'en France, où certaines joueuses peuvent quand même vivre aussi du rugby. Alors pas des folies, mais en tout cas, elles peuvent vivre. Et ce qui amène aussi énormément d'attractivité, c'est aussi la visibilité qu'on peut avoir sur ce championnat. Tous les matchs passent sur ITV ou sur BBC. Donc c'est aussi une facilité de suivre les joueuses. Là, la frustration qu'on peut avoir en France, c'est que la difficulté, c'est qu'il y a quelques matchs de l'Elite 1 qui sont diffusés, mais on a une frustration de ne pas pouvoir les suivre tout le long de l'année ou par des lives sur Twitch ou Facebook, comme il pouvait y avoir il y a un moment. Donc je pense qu'il faut que le public aussi puisse s'attacher à ces joueuses. Après, on voit quand même qu'il y a... un énorme changement, c'est que quand même vous arrivez à remplir Ernest Ballon.
Oui, ça commence à arriver.
Pour un match de championnat.
Et puis après, les Anglaises, là, ce qui les a aidées, c'est leur Coupe du Monde aussi. Elles ont vraiment fait un truc de fou pour la Coupe du Monde. Après, elles mettent les moyens aussi. Donc voilà, à nous aussi en France d'investir un peu plus. Comme le disait Lénaïs, c'est de peut-être se dire ok, un diffuseur arrive, dit ok, moi je télévise tout le rugby féminin. Alors oui, peut-être que tu auras des audiences qui sont... Mais en fait, si tu commences pas à le faire, c'est sûr, les gens ils nous suivent pour l'équipe de France. Puis après, ça s'estompe et tu nous revois un an après. Donc voilà, il faut mettre les moyens. Mais déjà, il y a plein de choses qui ont évolué depuis que toi tu as arrêté. Ça va encore évoluer quand moi j'arrêterai. Mais on est sur le bon chemin, mais il faut continuer
justement,
à travailler.
Qu'est-ce que tu dirais, là, justement, post-Coupe du Monde ? Est-ce que, là, cette année, tu as vu des changements ? Alors, déjà, avec l'arrivée d'AXA en tant que Neymar de l'Elite 1, est-ce que tu as vu, justement, des changements cette année, là, depuis septembre ?
Alors, il y a un peu plus de monde dans nos stades. C'est vrai que, franchement, après la Coupe du Monde, il y a un peu plus de monde sur notre terrain synthétique à Ernest Vallon, mais je trouve qu'il n'y a pas eu non plus une grosse...
Il n'y a pas eu un effet
Coupe du Monde en France, en tout cas. Je sais qu'en Angleterre, ça a été le cas, mais en France, c'était pas incroyable, quoi.
Est-ce que c'est un peu provoque comme question, mais est-ce que ça passe pas par de la victoire aussi avec l'équipe de France, de se dire que quand ça va gagner le tournoi...
Complètement, mais en 2018, là, dans notre dernière victoire, ça n'a pas non plus... Alors après, peut-être que le rugby féminin était encore plus jeune que maintenant, donc... Mais... Forcément, ce qu'on produit et gagner des titres, ça va forcément mener beaucoup plus d'investisseurs, plein de tout ce qui s'ensuit.
Est-ce que toi, tu l'as vu au Stade Toulousain, que justement, il y a peut-être plus de joueuses qui viennent essayer le rugby au club Ou chez les catégories plus jeunes?
Non, franchement, moi, ça m'a pas...
C'est dur de le quantifier, ça. Ouais. Pour revenir sur le sportif, l'Angleterre, c'est loin, c'est mi-mai. Il y a l'Italie qui commence, c'est samedi, à 13h30 à Grenoble, face à ces Italiennes. On parle souvent du fait que la France et l'Angleterre dominent, mais ça progresse en dessous aussi. On se rappelle de ce quart de finale de Coupe du Monde. On avait eu très peur face à l'Irlande, où c'était passé près. Comment t'observes, toi, la progression des plus petites nations du rugby féminin?
Ah oui, comme tu l'as dit, l'Irlande est en train de progresser, l'Italie, on a toujours en difficulté chaque année contre les Italiennes, parce que, en fait, la France, mine de rien, après l'Angleterre, c'est la nation que toutes les nations se disent, ok, on peut peut-être atteindre plus la France que l'Angleterre. Donc, j'ai l'impression que contre nous, toutes les nations sortent toutes leurs âmes qu'ils peuvent avoir, mais après, il y a des moyens qui sont mis dans les nations, et petit à petit, c'est en train de nous rattraper aussi, et c'est bien pour le tournoi, ça challenge, et puis on arrive certainement un peu plus prête en jouant des matchs un peu plus durs avant contre les Anglaises, mais c'est sûr que là, cette année, il va falloir se méfier de tout le monde.
C'est vrai qu'à une certaine époque, on avait l'habitude de voir des 70-0 quand on jouait l'Écosse. Bon, c'est vrai qu'on se disait qu'il n'y avait pas non plus de challenge de suivre les matchs de l'équipe de France, hormis l'Angleterre, où c'était toujours challenge. Donc là, ça amène aussi beaucoup plus de compétition et de challenge à regarder aussi cette compétition. On sait qu'il y a Angleterre-Irlande pour démarrer le tournoi destination.
Le stade est plein, je crois, d'ailleurs. Ah.
Mais tu nous parlais tout à l'heure de ces joueuses qui arrivent et qui découvrent un peu l'équipe de France. Ça va être ça aussi l'objectif pour ce premier match face à l'Italie, c'est de les incorporer dans l'équipe. Il y aura, j'imagine, l'objectif victoire, mais aussi l'objectif de voir comment ces 4 semaines de travail vont aboutir sur le terrain à Grenoble.
Oui, complètement. Je ne sais pas encore, mais il y a certainement de nouvelles capées qui vont faire leur première.
Il y en a 10 dans le groupe.
Oui, et certainement plus. Tu as certainement des nouvelles qui vont arriver. Donc, c'est de les accompagner un maximum. Parce que moi, je me rappelle de ma première sélection où tu es un peu... tu sais pas trop comment ça va se passer, t'appréhendes, tu stresses, donc c'est à nous aussi, les anciennes et les leaders, de les accompagner, de leur dire, kiffez, juste profitez du moment, quand vous avez les crampons, fais ce que tu sais faire le mieux, et pourquoi on t'a pris en équipe de France, en fait, c'est que t'as des qualités et t'es une joueuse incroyable, donc là, en fait, il faut voir que tes qualités, et en fait, essayer de les accompagner un maximum, mais c'est sûr que nous, ça va être... ça va être important pour nous de pouvoir les accompagner et que, justement, de ne pas tomber dans le truc où, nous, il faut qu'on apprenne vite un projet, accompagner aussi les jeunes, mais se concentrer aussi sur notre rôle. Et ça, c'est vrai qu'en tant que leader, on peut vite se perdre. Et ça, ça va être... il va falloir voir comment ça va se passer, mais ça va être quelque chose de chaud aussi pour nous.
Est-ce que tu as des noms de joueuses à nous conseiller de regarder de très près dans ces nouvelles têtes que tu as vues depuis un mois, peut-être tes coéquipières à Toulouse ou des adversaires en championnat? C'est qui la nouvelle tête de cette équipe de France féminine? Qui faut suivre?
La nouvelle pépite, je dirais que c'est Pauline Barat. D'accord. Voilà, numéro 15.
Tu peux nous la présenter?
Quelqu'un de très discrète, mais qui a une intelligence de jeu qui est juste incroyable, qui sait hyper bien lire les situations, qui pue le rugby. On a l'impression qu'elle va à de l'heure, mais elle va très vite.
Et la fausse charrette.
Voilà, la fausse lente, mais voilà, une grosse intelligente de jeu qui peut jouer 10 aussi. Et je pense que ça sera une future grande dans pas longtemps.
Qui joue à l'arrière au Stade Toulousain.
Au Stade Toulousain, oui.
Ah, c'est Corpo. Voir, voilà, c'est Corpo. Les Nike, c'est qui pour toi la joueuse qu'il faudra suivre sur ce tournoi de destination?
Moi, j'ai envie de citer un retour qui est aussi au Stade Toulousain. Une joueuse que j'ai vue plutôt jeune.
J'aurais pu dire Léa Murie aussi.
Léa Murie, que j'ai connue peut-être un peu impatiente, qui prenait pas peut-être forcément les choses au sérieux. Et vraiment, je sais pas, ça doit faire au moins 8 ans, je pense, après sa première sélection.
Je sais pas, 2016 ou 2017 peut-être.
Ah ouais, tout 9 ans. 10 ans.
Ouais, je sais pas. Ouais, non, mais t'as raison, 2018 peut-être, je sais pas.
C'est énorme le gap, et 10 ans après, elle revient, je trouve ça extraordinaire. Elle a fait une saison l'année dernière, même cette année, sur les chapeaux de roue avec le Stade Toulousain. Elle fait vraiment la différence. C'est une céréale marqueuse qui joue à l'aile. Donc je suis impatiente de la voir sous les couleurs de la France. Et surtout de voir sa maturité, la sérénité aussi qu'elle a gagnée avec le temps.
Ouais, et puis je pense que des fois, on a des blessures, on se dit que Des fois, elle s'est fait les croisés et elle est revenue encore plus forte. Et des fois, je pense que pendant un an, le fait de prendre du recul aussi un peu, ça te permet de mûrir un peu. Et c'est le cas de Léa. Vraiment, elle fait, depuis l'année dernière, depuis qu'elle est revenue de ses croisés, elle fait deux saisons qui sont juste incroyables. C'est une vraie finisseuse, en fait. Dès qu'on lui donne le ballon, il se passe toujours des choses. Donc, moi aussi, j'ai hâte de la découvrir. Mais Léa, ça, elle peut vite aussi être inhibée par plein de choses. Donc, il va falloir qu'on la cadre et lui dire que ça va bien se passer. Parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup la rassurer. Mais c'est vrai que... Et elles s'entendent très, très bien, Pauline Barat et Léa Mûri. Il y a une belle association. Donc, il me tarde de les voir à l'œuvre.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur ce tournoi, Pauline ?
De prendre beaucoup de plaisir, de performer et puis d'essayer de gagner les Anglaises, tous les matchs avant, mais d'essayer d'avoir le grand chelem en tout cas et de gagner des titres.
Je vois les Naïcs qui se frottent les mains, tu crois les Naïcs cette année ?
Oui, évidemment.
Tu me disais c'est peut-être la bonne année.
Et je me dis c'est peut-être la bonne année parce qu'il y a un renouveau, il y a François qui amène une nouvelle énergie, des nouvelles joueuses qui amènent beaucoup de fraîcheur, qui ont envie de bien faire et des anciennes aussi qui...
Ça me rappelle un peu 2018.
Le mix de générations et de compétences et chacun va vouloir aller chercher quelque chose. Et puis je pense aussi aux Anglaises qui
ont fait la fête.
Un peu le melon après la Coupe du Monde en se disant c'est bon, on est sur le toit du monde. Il y a aussi beaucoup de joueuses anglaises qui sont devenues mamans. Qui vont devenir enceintes en ce moment même. Oui. Donc ça fragilise aussi un petit peu les équipes, surtout post-Coupe du Monde. Elles, il va falloir repartir sur une nouvelle énergie, un nouveau cycle. Elles ont aussi beaucoup de joueuses vieillissantes. J'ai vu que Marley Pecker était quand même encore dans l'effectif des Anglaises, des Red Roses. Donc je me dis, c'est le bon moment, nous, pour la France, pour aller chercher quelque chose contre l'Angleterre. Et en plus, ça sera chez nous, donc c'est le moment. C'est
on y
bon
croit,
moment.
On y croit pour ce tournoi de destination. Ouais. On rappelle le premier match, c'est ce samedi, 11 avril, exactement, face à l'Italie. Il y aura ensuite toutes les autres nations. Et on finit le premier et le dernier, France-Angleterre, le 17 mai à Bordeaux. Merci beaucoup, Pauline,
d'avoir pris
le temps de nous répondre. Et merci beaucoup, les Naïcs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à commenter, à liker. Et on suivra tout le tournoi de destination, évidemment, sur RMC. À très vite.